Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Éduquer la conscience dès l'enfance, s'entraîner, se relever, grandir dans le bien. Un livre paru récemment aux éditions Artege. Je reçois toute cette semaine son auteur Gabriel Viala, marié, mère de famille, auteur de nombreux ouvrages sur le féminin, bien vivre le cycle féminin, sur la question aussi de la chasteté. Et puis ce dernier, bébé, je dirais, éduquer la conscience dès l'enfance. Et dans votre ouvrage, on découvre que cette éducation permet de mieux comprendre l'œuvre de la conscience aux différents âges de la vie. Bonjour Gabriel Viala.
Bonjour Nathalie.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, merci.
Alors, deux passages à Lourdes et dans nos studios, l'occasion aussi pour vous donc d'intervenir dans cette émission des clés pour vivre. Quelques clés de compréhension toute cette semaine pour mieux comprendre notre conscience. Alors, pourquoi cet ouvrage ?
Alors, parce que comme maman, ça m'intéressait de savoir comment faire pour aider mes enfants à choisir le bien et à rejeter le mal. Voilà.
Et c'est pas rien.
Et c'est pas rien, c'est une grande affaire.
Le travail de toute une vie.
Voilà. Et puis, il fallait aussi que comme maman, je sache m'ajuster, de pas imposer le bien, mais de respecter la conscience de mes enfants, justement. Alors, j'ai cherché un peu où est-ce que je pouvais avoir des éléments pour cela. Et finalement, c'est chez le cardinal Newman que j'ai trouvé les plus grands trésors et que j'ai voulu mettre à la portée des mamans. Voilà, parce que le cardinal Newman pose ses quatre consciences dans un cadre très théologique, très masculin, on pourrait dire. Alors aux mamans et aux pères, hein, aux pères bien sûr, hein, aux parents. Voilà, ça c'était la première motivation de mon ouvrage. Ensuite, il y a eu des motivations plus personnelles, dont les lecteurs pourront, s'ils sont un peu fins, découvrir par-ci par-là quelques éléments de témoignages personnels.
Et vous en donnez, oui. C'est parsemé de témoignages aussi,
voilà,
ce livre.
Énormément d'exemples et de merci d'ailleurs à tous les gentilles personnes qui m'ont permis d'illustrer ce livre avec beaucoup d'histoires personnelles. Ouais, voilà. Et puis des cas de conscience qui sont vécus de l'intérieur, qu'on peut percevoir de l'intérieur.
Et là, c'est aussi votre expérience auprès de ces couples où vous êtes écoutante.
Alors voilà, là, ça m'a plus aidée pour l'âge adulte. Parce que là, j'ai pu entendre des personnes parler de leur conscience et du retour aussi qu'elles faisaient de leur adolescence. Ça m'a aidée pour ces chapitres-là. Et puis, mon rôle de maman, ça m'a plutôt aidée pour la toute petite enfance et l'enfance, parce que là, j'étais première observatrice du travail de la conscience.
Et vous avez souhaité, dans cet ouvrage, donc traiter de toutes les étapes de la vie. Vous n'êtes pas arrêtée à la petite enfance seulement. C'était important pour vous de traverser toutes ces étapes de la vie ?
Oui, parce que je voulais absolument montrer que la conscience n'est jamais finie. Voilà, de la même manière qu'elle n'est pas prête à l'emploi, elle a besoin d'une formation. Le cardinal Journet dit qu'il nous faut être responsable de notre conscience devant plus grand qu'elle. Voilà, nous ne sommes pas propriétaires de notre conscience. Notre conscience, c'est le lieu où nous pouvons écouter une voix qui nous dépasse, qui n'est pas nous-mêmes.
Et quelle voix ?
Alors voilà, c'est la voix de Dieu, hein, qu'on peut écouter dans notre conscience. Mais alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que nous le savons, lorsque nous faisons appel à notre intériorité, il y a beaucoup de voix qui s'expriment dans notre intériorité, il y a beaucoup de bruit. Et l'enjeu, ce sera d'écouter Dieu nous parler dans nos cœurs. Hein. Alors, il nous faut comprendre que la conscience, c'est ce lieu de notre intériorité le plus profond, le sanctuaire, notre cœur. Mais c'est aussi une loi objective qui va traverser nos intelligences de façon unique et personnelle. Et ça, c'est peut-être quelque chose que nos contemporains ou nous-mêmes avons plus de mal à accepter. Notre conscience, ce n'est pas notre opinion personnelle.
C'est dans l'air du temps aujourd'hui, Gabriel Viala. Vous allez un peu à contre-courant en rappelant à l'instant que notre conscience, ce n'est pas notre opinion personnelle.
Oui. Parce que la conscience n'est pas du tout aimée. Alors, le cardinal Newman, au XIXe siècle, le disait déjà. Hein, il y a une conspiration contre la conscience, il disait.
Une détestation aujourd'hui, à notre époque, de cette conscience.
Une lutte décidée, hein, contre la conscience. En fait, on fait beaucoup l'apologie de la conscience. On dit « j'ai décidé en conscience ». Mais lorsqu'on dit ça, on dit souvent « c'est mon opinion, donc tu n'as rien à dire ». Voilà. En réalité, ce n'est pas ainsi que l'Église entend ce qu'est la conscience.
Alors, qu'est-ce qui se joue très précisément à ce moment précis ?
Alors, ce qui se joue, c'est quand même notre adhésion au Christ dans notre cœur, en fait. Hein, donc, ça échappe à l'observation de quiconque. Et ça, c'est très important. La conscience ne se contrôle pas, en fait. On ne peut pas contrôler ni manipuler. On ne doit pas la conscience d'autrui. Contrôler, manipuler, se substituer, infantiliser la conscience d'autrui. Or, c'est des tentations qui sont quelquefois très importantes chez l'autorité, même chez les parents. C'est-à-dire qu'on a tellement peur de ce qui peut arriver à nos enfants qu'on veut tout surveiller. Voilà. Alors, ça se comprend parce que nous voyons qu'il peut arriver plein de choses à nos enfants, mais c'est quelque chose sur lequel nous devons nous méfier.
Alors, quel est l'enjeu autour de, je dirais, de ce thème que nous allons donc aborder tout au long de la semaine, donc avec vous, quel est l'enjeu final? C'est apprendre, je dirais, à former cette conscience qui n'est peut-être plus formée, mais qui est peut-être déformée aujourd'hui dans notre société de consommation, de société où il n'y a plus de limites et plus de repères.
Alors, à l'âge adulte, je ne sais pas quels sont les auditeurs, il y a peut-être des petits-enfants aussi qui m'écoutent.
Je dirais des plus grands.
Pour les adultes, l'enjeu de la conscience, c'est quand même l'enjeu de la liberté intérieure. C'est savoir, est-ce que ce à quoi j'adhère, j'y adhère à cause des conditionnements, et à cause de mon histoire, à cause de mon passé, toutes ces questions, en fait, qui sont, je pense, pour la plupart des personnes, à intervalles réguliers, occasion de crises existentielles. Nous vivons tous des crises à l'occasion de souffrances particulières,
de traumatismes.
Exactement, les traumatismes, évidemment, aussi. Et là, nous avons un choix. Et nous avons différents choix. Nous pouvons fuir ces moments où nous pouvons, dans ces épreuves-là, nous remettre en cause, accepter une certaine purification, accepter de relire notre part de responsabilité, mais aussi, quelquefois, nos culpabilités qui sont injustifiées. Vous voyez, moi, ce qui m'a fait aider dans cet ouvrage, une des motivations importantes pour moi, ça a été de me débarrasser d'injonctions qui n'étaient pas bonnes, en fait, et qui ne venaient pas du Seigneur. Un exemple. Alors, oula, c'est compliqué, c'est difficile, ouais, Nathalie.
Tout est compliqué. Ouais.
Ben, moi, une des premières choses, c'est que j'ai pensé très longtemps avoir une vocation religieuse, parce que ma famille est portée énormément à la vocation religieuse. Puis, j'avais un grand souci, c'est qu'à chaque fois qu'on me demandait, oui, ok, tu veux être religieuse, mais de quand est-ce que tu as eu ton appel? Vous savez, souvent on entend les prêtres ou les religieuses nous dire à tel moment, j'avais 7 ans, où je préparais ma première communion, où je faisais un pèlerinage, et là j'ai entendu un appel du Seigneur. Et moi, je me torturais en disant, mais il est où mon appel? Parce que je ne trouvais pas d'appel, aussi loin que je remontais dans ma mémoire, je voulais être religieuse. Et puis j'ai eu, à l'âge de 19 ans, lorsque j'ai fait un essai de vie religieuse, presque un appel inversé, c'est-à-dire qu'à l'oraison, je me suis rendu compte que non, je n'avais pas la vocation religieuse. Ça a été un grand déchirement. Et puis ça a été, après, pendant plus de 20 ans, parce que je suis pas toute jeune, l'occasion de relire tout ce qui m'avait été apporté dans ma foi et de dire, est-ce que c'est vrai? Voilà, alors ça a été le...
Donc il y a un questionnement sur la vérité.
Exactement, et il y a un lien entre la vérité et le bien. Et ça, on peut le lire dans Jean-Paul II, dans Veritatis Splendor, qui est l'encyclique sur la vérité.
Alors j'en profite aussi parce que vous citez énormément Jean-Paul II avec cette encyclique qui fête ses 30 ans. Et on peut inviter l'auditeur à devenir lecteur et lecteur aussi peut-être de Veritatis Splendor, cette magnifique encyclique.
Oui, merci Nathalie, très belle encyclique. Cette encyclique qui s'appelle « La splendeur de la vérité » et dont Jean-Paul II, dans une catéchèse, a dit que c'était l'encyclique sur la conscience. Voilà, donc c'est une encyclique qui réhabilite la conscience et qui nous fait aimer la conscience.
Vous citez aussi le cardinal Newman, vous citez Benoît XVI aussi dans votre ouvrage, vous citez saint Augustin, ce sont tous des piliers, des références pour vous, je dirais autant dans l'écriture, l'étude, la formation.
Alors oui,
parce qu'ils sont cités du début à la fin, hein. Oui. C'est parsemé, je dirais, vraiment de beaux textes.
C'est bien dit Nathalie, ce sont des piliers, ce sont vraiment, mais ce sont aussi, j'aimerais envie de dire, des amis. Les auteurs que je cite deviennent des amis. Chez le cardinal Newman, particulièrement dans ce livre, J'ai vraiment été touchée par la manière dont lui-même parlait du travail de Dieu dans sa conscience. Le cardinal Newman, mais pour moi je l'associe un petit peu à Benoît XVI, lorsqu'on est habitué de ses écrits, on perçoit en fait que ces auteurs nous mettent des petites choses très précieuses, des petits témoignages d'eux-mêmes qui sont souvent très touchants. Par exemple, Benoît XVI, il nous parle de la bénédiction de ses parents sur lui. Et c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi de découvrir ça. C'était dans la théologie de la liturgie, donc quelque chose d'un peu costaud. Et en fait, il met quelque chose de tout à fait plein de fraîcheur, où il nous dit, mais nos parents nous bénissaient. Ils nous bénissaient le soir, et puis lorsque nous partions, un peu plus grands, nos parents nous bénissaient. Et je savais que je devais rester dans l'espace de la bénédiction. Et c'est très très important pour la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, nous comme parents, nous formons la conscience de nos enfants. Et ensuite, c'est à nos enfants de rester dans l'espace, en fait, de cette formation de la conscience.
Donc il y a cet espace aussi que l'on peut appeler de liberté.
Exact, exactement. C'est ça. Il faut absolument voir que tout se tient, que tout...
Tout est ordonné, en fait.
Voilà, tout est ordonné.
Pour le bien.
Exactement. Alors, tout est un peu blessé. Hein. Tout est même très blessé chez nous.
Cabossé.
Oh, oui, très cabossé. Mais en même temps, le bon Dieu a tout bien fait. Il y a une espèce de stéréo entre l'autorité, la conscience, la liberté, la vérité et le bien, en fait. Voilà.
Gabriel Viella, merci pour ces quelques premières minutes d'intervention dans cette nouvelle série, en cette période du temps de carême, temps peut-être de transformation, temps de conversion, temps peut-être de revisiter peut-être cette intériorité, ce sanctuaire intérieur, de s'interroger où on en est aussi avec notre propre conscience. Est-ce qu'on l'interroge? Est-ce qu'on fait la vérité? Gabriel Viella, auteur de ce livre, Éduquer la conscience dès l'enfance, s'entraîner, se relever, grandir dans le bien, aux éditions Arthège. À demain, même lieu, même heure, et merci.
Merci Nathalie.